foi et turbulence.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine Cossette au microphone. Eh bien, je dois vous dire que je suis très heureuse de retrouver ce microphone de Radio Ville-Marie dans le cadre de l'émission « Foi et turbulence ». Une fois par mois, je recevrai donc pour vous un invité qui analysera avec moi un sujet qui touche notre société ou tout simplement notre vie personnelle ou notre vie de foi, et ce, pour mieux nous aider à le comprendre. Et ces invités viendront du Collège universitaire dominicain, soit aux facultés de philosophie et de théologie d'Ottawa, soit à l'Institut pastoral ici à Montréal. Nous aurons donc le bonheur de recevoir des professeurs de cette institution, dominicains ou laïcs, et leurs invités qui viendront parfois de très loin. Aujourd'hui, c'est avec le président du Collège universitaire dominicain que je m'entretiens. Il vient nous parler de cette vénérable institution, de ses deux campus, de la pertinence de réfléchir sur des questions pastorales, théologiques et philosophiques. Et j'ai nommé Maxime Allard. Maxime, alors bonjour.
Bonjour Christine.
C'est avec plaisir que je vous reçois à cette première émission. Donc, vous ouvrez cette série d'entrevues avec les Dominicains du Collège universitaire dominicain, avec les Dominicains, mais aussi avec leurs invités, dans le cadre de l'émission « Foi et turbulence ». Vous êtes président du Collège universitaire dominicain. C'est une institution qui, dans les faits, en compte deux.
En effet, le Collège universitaire dominicain a deux campus, un plus vieux à Ottawa qui remonte au début du 20e siècle, qui a été le studium des frères dominicains au point de départ et qui, depuis 1967, grâce à une charte civile de l'Ontario, offre des cours en philosophie et en théologie avec des diplômes civils. Mais c'est aussi un campus à Montréal, puisque depuis 1960, les frères ont ouvert un institut pastoral des Dominicains à Montréal, qui est rattaché, pour les questions de diplôme, au collège à Ottawa.
Oui. Alors, on dit le collège universitaire dominicain. Alors, pourquoi collège plutôt que université?
C'est que dans la charte, c'est le nom collège qui a été utilisé, et c'était à l'époque... On entendait en anglais, comme en français, collège. On pensait aux colleges à Oxford ou à Cambridge, qui sont des institutions universitaires. Nous avons rajouté depuis quelques années le mot universitaire, puisqu'avec les années, le mot collège en anglais, en est venu à désigner beaucoup plus ce qu'on appelle au Québec les cégeps.
Oui.
Donc, pour vraiment marquer l'aspect universitaire, on a souligner le mot, ce qui fait désormais le Collège universitaire dominicain, et comme nous sommes bilingues, Dominican University College.
Mm-hmm. Alors dites-moi, Maxime, pour quelle raison un étudiant choisirait le Collège universitaire dominicain, soit à Ottawa, soit à Montréal, plutôt qu'une faculté de théologie, une faculté de philosophie dans une université, dans une autre université québécoise, par exemple?
Les raisons peuvent être assez variées. Commençons par des raisons romantiques, mais je dirais des raisons qui sont liées à des facteurs accessoires, mais qui finissent par avoir un certain poids lorsqu'on choisit une certaine manière de faire de la philosophie ou de la théologie. Tant à Montréal qu'à Ottawa, les facultés du Collège dominicain sont situées dans un couvent dominicain.
Oui.
Donc, c'est pas un campus universitaire au sens traditionnel, dans les universités d'État désormais. C'est un monde universitaire qui s'inscrit dans un milieu de vie pour des hommes, les Dominicains, qui ont fait des choix quant à leur façon de vivre l'Évangile, de s'inscrire dans l'Église, de s'inscrire dans la société. Donc, je dis que ça peut être romantique parce qu'il y a des grands cloîtres. C'est l'architecture, d'une part.
Oui, mais c'est un mode de vie.
C'est aussi un mode de vie, mais les étudiants le découvrent au cours des années. Au point de départ, ce qui frappe lorsqu'on entre à Ottawa, c'est le grand cloître blanc. Lorsqu'on arrive au 2715 du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, on a une architecture des années 60 qui est une architecture religieuse et tout. Donc, ça peut, d'une certaine manière, déjà offrir une différence. Autre différence que nos étudiants nous disent être importante pour eux, c'est le fait que nous sommes une très petite institution, des petites classes avec un professeur, on peut retrouver de 3 à 20 étudiants, mais plus 3 à 10 que 3 à 20, tant en français qu'en anglais. Donc, il n'y a pas cette idée de nous sommes dans un milieu où on produit de la science de façon plus anonyme, une production en chaîne, de masse, surtout pour la philosophie et la théologie, qui sont deux types de pratiques, de discours, de sciences, qui requièrent de la discussion, du dialogue, un petit nombre où les étudiants et les étudiantes se retrouvent en confiance pour discuter avec le prof, ça peut être une très bonne raison. Autre raison liée à cette taille-là, c'est le rapport entre les étudiants et les professeurs. Tout le monde se connaît, les gens sont très disponibles les uns aux autres, et lorsqu'on regarde sur les indicateurs de qualité de l'enseignement, au moins les indicateurs ontariens, la taille de la classe et le nombre d'heures qu'un étudiant ou une étudiante peut passer avec son prof, plus la classe est petite et le nombre d'heures est élevé, plus on considère qu'il y a là un signe, un symptôme d'une qualité de l'enseignement. Ben, ça, on retrouve ça chez nous.
Oui.
Autre élément aussi, là c'est au campus d'Ottawa plutôt, mais je reviendrai sur un avantage du campus de Montréal après, c'est le caractère bilingue de l'institution. Nous offrons en français et en anglais deux programmes, j'allais dire parallèles, en philosophie et en théologie, avec des professeurs souvent qui sont différents, de sorte que vous pouvez faire un cours en français, puis un en anglais, ou vice-versa. Et chez nous, à Ottawa, le dépaysement se fait dans les deux sens. Des francophones vont chez les anglophones et les anglophones viennent dans les classes francophones. Mais nous encourageons les étudiants, compte tenu de la nature de la philosophie ou de la théologie aujourd'hui, le monde anglophone publie énormément et des choses très intéressantes auxquelles souvent les francophones ont moins accès ou sont moins intéressés. Et comme la philosophie et la théologie, à mon avis, au cœur de ce travail-là, c'est d'ouvrir l'esprit, d'arriver à penser, lire, comprendre quelque chose en provenant d'une autre langue, d'une autre culture, c'est déjà un début.
Oui, évidemment.
À Montréal, l'avantage du campus avec l'Institut pastoral, c'est qu'il y a une équipe qui a d'une part une très grande expérience de terrain. Ce sont des hommes, des femmes qui ont leur diplôme en théologie, mais qui ont un souci andragogique lié à une inscription de la théologie et de ceux et celles qui font de la théologie sur le terrain. Et un suivi des gens qui s'engagent là, avec un programme extrêmement précis d'accompagnement qu'on ne retrouve pas dans d'autres universités qui offrent des cours dits de pastoral ou de théologie pastorale. Il y a toute une culture, il y a un environnement à l'Institut pastoral dont pourra éventuellement vous parler le directeur, le frère Daniel Cadrin, mais qui est vraiment spécifique. Et je le vois lorsque je rencontre les étudiantes et les étudiants de l'Institut, qui leur apporte un soutien théologique, cognitif, si on veut, mais aussi un soutien ecclésial qui est très important.
Oui, je veux revenir à cette idée que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous savez, cette idée que les étudiants entrent au couvent des Dominicains, ils vivent dans une atmosphère tout à fait spéciale, je dirais presque de prière. Est-ce que l'étudiant se sent partie liée à ces Dominicains où il peut très bien faire ses études sans se préoccuper de ce qui se passe? Ou à contrario, est-ce qu'il peut vivre très près la vie dominicaine?
Sur le campus d'Ottawa, c'est plus facile d'être très auprès des frères puisque les locaux du collège universitaire, tant faculté philo que théo, se trouvent au cœur même du couvent, alors qu'à Montréal, c'est un peu plus en dehors des lieux occupés par les frères. Mais à la fois mon expérience personnelle d'avoir étudié là, résidé là, grandi là presque, je suis arrivé là assez jeune, mais je vois avec les jeunes étudiants, qu'ils soient de provenance catholique, chrétienne ou non, puisque la majorité de nos étudiants, côté francophone, ne sont ni catholiques, ni catholiques pratiquants. Nous avons des musulmans, des gens qui ne sont pas intéressés aux religions non plus. Ils se sentent tout à fait chez eux, ils se sentent accueillis. Ils découvrent un aspect qui leur semblait jusque-là de l'ordre du musée ou de la culture, en voyant que bon, y a des gens qui vivent encore ça et qui n'ont pas l'air tout à fait malheureux.
Et puis dites-moi, est-ce que les programmes que vous proposez au Collège universitaire dominicain sont bien différents de ceux que l'on propose dans les facultés de philosophie et de théologie dans d'autres universités?
Commençons par la philosophie. Le monde de la philosophie est depuis un siècle à peu près divisé en deux. Il y a un énorme fossé, encore plus large que dans le fossé dans l'œuvre d'Astérix. On verra qui a fait ses classes et les bonnes références. Un fossé très très large entre la philosophie dite analytique, plutôt anglo-américaine, et la philosophie continentale, plutôt franco-allemande. Le gros du programme du Collège universitaire dominicain dans sa faculté de philo est de l'ordre de la philosophie continentale, mais plusieurs de nos professeurs sautent de l'autre côté du fossé ou créent un pont, enfin, on s'y retrouve et on dialogue avec les deux. Mais l'option est véritablement philosophie continentale de ce côté-là. Alors,
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là, que la philosophie continentale, vous pouvez nous dire en deux mots?
Continentale veut simplement dire que c'est par opposition à l'île britannique puis à l'Angleterre, mais il s'agit d'un certain type de lecture des textes de la tradition, des Grecs, de Parménide jusqu'à Derrida, Jean-Luc Nancy et d'autres philosophes comme Giorgio Agamben qui sont encore vivants, des hommes, des femmes qui inscrivent leur réflexion philosophique dans un rapport d'interprétation, de réflexion en lien avec ces travaux historiques, cette tradition philosophique, et qui cherche plutôt, je dirais, de l'ordre de la continuité avec ces grandes pensées-là. La philosophie analytique est beaucoup plus une philosophie liée à la logique, à une certaine manière de penser. Qu'est-ce que c'est que penser pour les êtres humains? Au fond, les mêmes grandes questions finissent par se retrouver. On finit par aborder les mêmes paradoxes et tout, mais vraiment par des biais différents, de sorte que certains peuvent être dans un côté du fossé et ne rien connaître de l'autre et très bien avoir le monde, être philosophe. Oui. Au Collège dominicain, on insiste sur le pont entre les deux, le passage entre les deux, un peu comme le faisait le philosophe français Paul Ricoeur, qui est mort il y a quelques années. Oui. Du côté théologique, la spécificité, je dirais, du campus d'Ottawa, c'est beaucoup plus d'insister sur l'apprentissage de la théologie par une connaissance de première main approfondie de la Bible, de l'histoire des premiers siècles de la vie de l'Église, avec ceux qu'on appelle les pères de l'Église, la plupart du temps de grands évêques qui ont laissé un souvenir quant à leurs actions, qui ont laissé des textes, qui ont travaillé, qui ont été porteurs de ce que c'était que la foi à l'époque. Et on arrive comme ça, morceau par morceau, au questionnement d'aujourd'hui. Alors que dans plusieurs autres facultés de théologie, on va partir directement avec les étudiants des problèmes d'aujourd'hui, oui, et on va se dire, ces problèmes-là, on va les piger à droite ou à gauche pour essayer de répondre. C'est une question de point de départ, de perspective.
Oui.
Nous avons choisi, dans la vieille tradition dominicaine qui remonte au Moyen-Âge, la théologie au point de départ, c'était la lecture de la Bible questionnante, qui réfléchit, qui prend les paradoxes bibliques au sérieux, qui voit comment on a essayé de résoudre ces paradoxes-là ou ces questions-là. On est resté de ce point de vue-là, disons, plus traditionnel.
Oui.
À l'Institut, ce qui est intéressant, c'est l'arrimage entre la réflexion sur le terrain, la foi vécue, l'expérience ecclésiale des étudiants, puis le rapport au texte et aux problématiques contemporaines.
Mm-hmm. Je reviens à la faculté de théologie à Ottawa. Vous avez un grand souci d'aller puiser à la grande tradition.
Oui.
Oui, c'est peut-être une de vos grandes forces.
C'est certainement une option de base. Et il y a là quelque chose d'un peu qui va à contre-courant de bien des options, mais nous croyons, j'ai été formé comme ça, plusieurs générations ont été formées comme ça, de se dire que d'aller lire et de se confronter à des manières de penser la foi chrétienne, la vie ecclésiale, la vie en société, par des penseurs qui avaient des problèmes propres, peut nous aider aujourd'hui à inventer des manières nouvelles de l'être.
On sait, Maxime Allard, que le monde dans lequel nous vivons est hyper technologique. On est envahi par le téléphone cellulaire, l'iPhone, l'ordinateur et toutes ces belles choses qui nous sont fort utiles du reste. Mais alors, le savoir, on le sait, nous l'avons sous la main. Il s'agit de taper quelques touches et d'aller sur Google pour tout savoir. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour vivre. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un avenir pour la philosophie dans ce monde hyper technologique?
Je dirais oui, sans aucun complexe. D'une part, déjà, tous les grands textes de la tradition philosophique occidentale, la tradition théologique, c'est la même chose, se retrouvent au bout de vos doigts. À mon avis, c'est une amélioration. On pourrait parler d'une démocratisation des grands textes, accessibles à tous et à toutes. Enfin,
donc, c'est heureux.
C'est très heureux.
Oui, oui.
Mais ce n'est pas parce que vous avez un grand texte d'Aristote ou de Hegel ou de Kant au bout des doigts que vous savez comprendre ce qui est en jeu, que vous savez les lire et tout. Et si vous continuez à descendre sur Google, on vous offrira des fiches de lecture toutes faites. Ce qui est très bien pour le plagiat. mais si vous avez un esprit philosophique, on va trouver avec le temps la capacité de développer des outils électroniques qui vont aider les étudiants et les étudiantes à lire. Mais le patient travail de lecture ne sera jamais fait par un ordinateur. Et s'il est philosophique ou théologique, ne pourra jamais être fait seul. Ça implique le rapport au texte, oui, mais le rapport du lecteur au texte et à d'autres interlocuteurs qui l'ont déjà lu avant eux, qui ne sauront peut-être pas le lire, mais il y a des véritables questions qui vont circuler et il y a là un apprentissage que l'électronique peut aider, mais qui ne peut pas remplacer.
Et donc, la technologie ne suffit pas, et c'est peut-être là que la réflexion philosophique est essentielle.
Oui, tout à fait. Parce que vous aurez beau avoir la température au bout de vos doigts, vous aurez beau avoir la possibilité de trouver rapidement une référence que vous avez oubliée ou que vous savez qui existe un peu vaguement, vous avez beau pouvoir avoir ça, comme vous dites, au bout des doigts, dans l'instant même. Si vous êtes un être humain normal, il y aura aussi des temps où vous allez être assis entre amis. Et là, vous allez parler d'autres choses pour lesquelles vous ne pouvez pas taper sur Google ou sur aucun moteur de recherche.
Comme par exemple?
votre meilleure amie vient de perdre son père tragiquement ou vient d'apprendre qu'il y a un cancer ou autre chose, vous pouvez, au bout d'un clic, et c'est très bien, envoyer des fleurs.
Oui.
Mais apprendre qu'est-ce qui est en jeu là pour arriver à avoir une présence signifiante, appropriée auprès de la personne, ça, il n'y a pas de clic encore qui peut remplacer ça. Et de fait, je crois que quelqu'un qui se promène dans le monde, malgré tous les écouteurs, puis qui peut avoir être en train de tweeter et de chercher autre chose, il y a des moments, des événements dans la vie sociale, économique, qui font que les grandes questions ressortent. Cette semaine, à Ottawa, j'étais à Carleton, l'université Carleton, avec lequel le Collège dominicain est affilié, au moment où il y a eu l'accident.
Oui.
Entre l'autobus qui est rentré dans le train. Et bien, sur Twitter, dans l'université, ont circulé des « Why? How can that be? » Donc, des questions de fond. C'est pas simplement savoir bon, « Est-ce que c'est le chauffeur d'autobus qui était malade et tout? » Non. Comment ce genre de choses peut arriver?
Oui.
Vous avez là une question philosophique.
Oui.
Et il n'y aura pas de réponse sur Internet. Par contre, Internet peut mettre en place des lieux de discussion, des blogs, des chats qui peuvent aider à vivre la douleur, la surprise, l'émotion, mais qui ne permettront pas encore, que d'amorcer du questionnement, qui est un vieux questionnement philosophique.
Mais on vit quand même dans un monde où les sciences exactes, ou même, je dirais, l'économie... ils sont beaucoup plus valorisés que les sciences humaines. Alors, comment un étudiant peut en arriver à vouloir comme ça s'inscrire dans une faculté universitaire de philosophie?
Prenons l'économie. C'est une science exacte, passons. Enfin, il y a des mathématiques, il y a des algorithmes, il y a des formules et tout. Mais quelqu'un qui est en économie ne peut pas à un moment... Enfin, peut toujours, on peut rester très... orienté vers la technologie ou les statistiques, mais même quelqu'un qui est en économie peut arriver à un moment à se dire, comment ça se fait qu'il y a cette répartition-là des biens de production?
Oui.
Et là, déjà, c'est une question à laquelle l'économie par elle-même ne peut pas répondre. Un économiste peut avoir toutes les statistiques puis tout pouvoir expliquer pourquoi les pauvres sont pauvres, mais devant le cri de détresse ou les signes de tristesse d'une femme qui est en train de quêter un bol de riz pour son enfant, sa science ne l'aidera pas beaucoup.
Non.
En elle-même. Mais le rapport à l'angoisse, comme aux craintes, comme aux joies humaines, et aux questions qui sont générées par ces passions-là dont vivent les hommes et les femmes, traditionnellement, c'est la philosophie qui... par bien des côtés, la théologie aussi, et la pastorale pour le même prix, qui essaie d'articuler la chose. Ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est comment se servir, dans la réflexion philosophique, des outils qui peuvent apporter l'économie, la sociologie, etc., etc., pour à la fois aider à comprendre comment on en arrive à mettre une femme à la rue et la rendre obligée de quêter un bol de riz pour son enfant. Si on est arrivé par le capitalisme ou autre chose à faire ça, probablement que l'économie peut aussi aider, la sociologie aussi, à défaire ces mécanismes-là, ou à tout le moins essayer de les enrayer pour ouvrir vers autre chose. La philosophie, et il n'a pas fallu attendre Marx pour le savoir, n'est pas simplement là pour devenir un miroir de ce qui est, mais aussi une fonction transformatrice.
Mm-hmm. Et donc, si je vous comprends bien, la philosophie va aider l'être humain à rester enraciné dans sa propre terre, c'est-à-dire sa terre humaine, et, afin de ne jamais oublier qu'il est d'abord un être pensant et méditant. Et pour reprendre Heidegger, non seulement un être calculant, mais un être... pensant.
Certains humains arrivent à penser, oui, des fois.
mais peut-être que la philosophie sert...
peut aider à faire en sorte que oui. plus de personnes puissent mieux réfléchir, plus souvent et avec plus de plaisir. Mais ce qui est vrai pour la philo, c'est vrai pour la théologie. Je pense au travail que font depuis des décennies, entre autres le frère Gustavo Gutiérrez, mais aussi tous les autres théologiens de la Libération, avec des gens qui sont très peu scolarisés, arriver à comprendre l'Évangile, oui, mais arriver à comprendre l'Évangile de telle sorte qu'ils puissent aussi comprendre les structures sociales, les mettre en question et travailler pour de la justice. La pastorale, c'est bien beau, mais si vous écoutez les hommes, les femmes de votre communauté et de la société, ben, vous ne pourrez pas en rester avec des belles phrases toutes faites ou avec une réponse simplement technique. Il y a autre chose à faire et on sert à ça.
Oui. On peut imaginer qu'être philosophe aujourd'hui, être philosophe, je ne sais pas moi, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, à une autre époque de notre histoire, ce n'est pas du tout la même réalité. Quel impact la philosophie peut avoir sur nos institutions sociales, politiques aujourd'hui?
La philosophie comme telle, je crois qu'elle ne peut pas grand-chose parce que c'est un discours. Mais des hommes et des femmes qui auront travaillé en philosophie ou qui auront étudié de la philosophie pourront, à mon avis, être mieux équipés pour être des citoyens, des citoyennes qui pourront ne pas se laisser prendre à toutes les rhétoriques politiciennes ou à toutes les inflations verbales ou passionnées dans différents débats et pourront arriver, si ils ont eu une approche de la philosophie qui n'est pas dogmatique, mais critique, ils seront capables d'apporter les outils critiques dont ils se servent pour lire un texte, pour défricher, déchiffrer, décrypter les débats de leur société et peut-être les aider à s'orienter non seulement dans la pensée, mais dans le monde.
Ouais, est-ce que vous avez un exemple de ça?
Je regarde... il y a des grands débats qui ont eu lieu. Je pense à Habermas en Allemagne, philosophe, sociologue, qui a pris position à différents moments sur différentes choses. Michel Foucault, un des grands penseurs qui a marqué énormément la philosophie, a été très impliqué pour la question des prisons. D'autres ont été impliqués pour d'autres choses. Si vous regardez au Québec, il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont publié des ouvrages sur la transformation de l'université et tout, je pense à un ouvrage de Michel Seymour, par exemple, c'est quelqu'un qui est marqué par la philosophie. Le Québec moderne ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu dans le cours classique de la philosophie, qu'elle soit bien faite ou mal faite, ou si on n'avait pas encore aujourd'hui au Québec de la philosophie. Je le vois d'une certaine manière étant sur la rive de l'Outaouais. Les étudiants et les étudiantes qui nous arrivent du cégep, qui ont déjà fait de la philo, ont un regard social, politique plus affiné souvent que des jeunes qui nous arrivent de la 12e année ontarienne qui n'ont jamais fait de philo.
Ah oui, hein, on voit la différence.
On voit la différence. De sorte que je me réjouis qu'il existe un mouvement en Ontario, désormais depuis quelques années, où on inscrit en 12e année des cours de philosophie.
Oui. Est-ce que vous croyez que la réflexion philosophique a aussi un impact sur notre façon de voir, par exemple, l'être humain?
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Pour le meilleur ou pour le pire, selon la philosophie que vous choisirez. Mais certainement.
Vous aimez la musique, Maxime Allard?
Oui. Dans une vie antérieure, j'ai encore beaucoup aimé la musique, plus qu'aujourd'hui.
Même. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez?
Je vous suggère de la Traviata de Verdi, puisque nous célébrons le 200e anniversaire de la naissance de Verdi cette année, le Sempre Libera, à la fin du premier acte, Violetta, qui est une courtisane, socialite, diraient les Anglais, se sent presque tombée amoureuse d'un homme, mais elle célèbre sa liberté, son désir d'être libre et de jouir de la vie. En philosophie, le rapport entre la liberté, la jouissance de la vie, l'amour, on s'y connaît. Et je crois que les théologiens et théologiennes savent se retrouver dans ce milieu-là aussi.
Nous reprenons cette entrevue avec Maxime Allard, président du Collège universitaire dominicain. Vous parliez dans cette première partie de l'émission de l'importance de la philosophie pour développer son sens critique, pour apprendre à discuter intelligemment, peut-être même à écouter sérieusement l'autre qui est différent de moi. Ce que vous avez dit de la philosophie, j'imagine que vous pouvez l'appliquer un peu aussi à la théologie.
Un peu beaucoup.
Oui.
Je crois que ces deux disciplines universitaires, sur ces points-là, sont très proches. La théologie en tant que discours discipliné dans une université est née de questions que généraient les croyances des catholiques. Mmh. Et les hommes, parce que c'était à l'époque surtout des hommes qui pratiquaient la théologie, surtout au Moyen-Âge, à l'université, avaient le courage et l'imagination de soulever toutes sortes d'objections, toutes sortes de critiques, toutes sortes de questions qui peuvent fâcher, et d'essayer de trouver des réponses autres que, d'une part, ce que leur mère, leur grand-mère avait pu leur dire, de ce qu'ils avaient pu vivre ou entendre à l'Église par ailleurs. Alors, la faculté de théologie est née comme entreprise critique, qui naît des questions des gens dans la foi. Mais c'est aussi né du besoin de pasteur d'arriver à développer une écoute attentive, pastorale, fraternelle de la complexité de l'agir des hommes et des femmes de leur temps. Mmh. Au XIIIe siècle, les structures sociales changeaient, les structures ecclésiales changeaient aussi, urbanisation, une première révolution économique, si vous voulez, etc. Révolution ecclésiale avec ça. Les hommes, les femmes se retrouvent à venir ou pour se confesser ou pour discuter avec les dominicains, entre autres, mais les franciscains et d'autres. Et nous ne sommes plus avec les questions qui avaient cours dans le fond de la forêt ou dans un désert ou au milieu des champs avec les moines. Mmh. L'agir humain s'est complexifié à cause des structures sociales, économiques, politiques, ecclésiales, ben les réponses doivent se complexifier. Et les réponses ne tombent pas du ciel, ils ont dû les inventer. Et la théologie a fait partie des discours, des lieux où on a énormément réfléchi sur comment inscrire dans le quotidien la foi chrétienne, la foi, l'espérance catholique, mais inscrite dans des structures sociales, économiques, culturelles, qui se renouvellent et pour lesquelles, jusque-là, ils n'avaient pas de réponse, ils ne savaient pas quoi faire. Ça a donné lieu à des débats, à des mécompréhensions, mais ça a aussi été l'occasion de libérer des gens, d'inventer des nouvelles manières de dire, et la tentation, c'est toujours de dire, désormais on a la réponse et on va répéter ça. Les facultés de théologie sont dans l'Église. À mon avis, c'est un de leurs rôles, ce n'est pas l'unique, mais un de leurs rôles, c'est d'être toujours occupé à entendre les nouvelles questions, à en formuler des nouvelles, à réactiver des vieilles questions qui sont oubliées ou dépassées, dit-on, pour des raisons souvent idéologiques ou politiques ou autres, à les ramener et peiné, parce que c'est un labeur, c'est difficile, à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est vécu dans l'Église et dans la société, à trouver des réponses opportunes, appropriées, circonstanciées, aux besoins de l'Église de ce moment-là. Mm-hmm. En se disant que 30 ans plus tard, si vous allez ailleurs ou au même endroit, il faudra recommencer le même travail.
Mm-hmm. Donc, la théologie qui permet de répondre à des questions, évidemment, aux questions du croyant, bien personnelles, mais aussi à développer une vie ecclésiale.
Oui, parce que le croyant et ses questions, s'il existe, il existe vraiment dans un réseau ecclésial qui est lui-même un des éléments d'une vie sociale, politique et économique. Ouais. Le croyant n'est pas dans son monde ou c'est pas quelque chose qui... On n'est pas croyant dans sa chambre à coucher parce qu'on se pose des questions existentielles là, en dehors des débats sociaux, économiques qui ont cours une fois que je sors de chez moi.
Mm-hmm. Vous dites aussi, Maxime, alors que la réflexion théologique permet d'éviter le fanatisme, les enfermements idéologiques. C'est très important.
C'est très important, mais en même temps, on peut très bien concevoir, je dirais personnellement, malheureusement, mm-hmm. des hommes, des femmes qui feront de la théologie pour soutenir leur fanatisme. C'est comme ça.
Mais ce n'est pas ce que vous faites au Collège universitaire dominicain à Ottawa, ni non plus ici à Montréal.
Non, la tradition dominicaine est plutôt critique et a été dans bien des... Enfin, on a 800 ans, les Dominicains, il y a de tout dans notre tradition, j'en conviens. Mais il ne faut jamais oublier, il y a eu quelqu'un comme Savonarole. Plusieurs autres frères ont contribué à la rédaction des constitutions de cité-État italiennes. Lacordaire, qui a refondé les Dominicains en France après la Révolution, a été député. Le père Georges-Henri Lévesque a fondé une faculté à Québec, sciences sociales. Il avait fait sa théologie à Ottawa. Mm-hmm. Le père Mayou, qui a contribué à fonder la psychologie à Montréal, avait fait sa théologie. Et si vous lisez le père Mayou, vous allez voir que sa théologie est très présente en psychologie. Mm. Le père Gilles Bélanger, qui a travaillé à la faculté des sciences sociales à l'Université Laval, mais qui a été le fondateur de l'Institut pastoral, était aussi un homme ancré dans une façon de faire la théologie où il s'agit de réfléchir la foi, la pratique de l'Église, pour aider d'autres hommes et femmes à faire cette réflexion-là pour vivre. Et après, ça mène à... Vous n'êtes pas nécessairement d'accord les uns avec les autres, mais vous avez des outils communs pour la discussion.
Mmh. Vous savez, Maxime, que le cours d'enseignement religieux catholique n'existe plus ici au Québec. Ce n'est pas la même chose en Ontario, là. Mais alors, pourquoi un étudiant ferait de la théologie, à moins d'être très riche et de ne pas avoir à gagner sa vie, mais pourquoi il ferait, pourquoi il se donnerait comme ça une formation en théologie?
Je dirais d'une part qu'il y a des débouchés. Donc, on peut être pauvre,
oui,
bénéficier de bourses, uh-huh. Faire de la théologie et avoir un débouché dans le milieu ecclésial, mais aussi en dehors du milieu ecclésial. Il existe des possibilités mm-hmm. de ce point de vue. Donc, si on veut simplement du point de vue professionnel, il y a un espace pour ça.
Oui.
Vous ne vivrez pas riche,
non.
Mais vous allez vivre.
Très mince, là, avouons-le.
Oui, c'est oui. mince, mais ça
oui.
existe.
Oui, oui.
Et il faut en profiter. Il pourrait y avoir différentes raisons. Prenons deux cas de figure. Donc, une première personne élevée en milieu catholique avec des parents pratiquants se retrouve à l'église régulièrement, plus ou moins, et se dit une fois dans sa vie, un peu comme Descartes, il faut faire le ménage dans nos croyances,
oui.
Il y a des choses intéressantes, ça marche, le Christ sauveur, Jésus ça vole, le chapelet sur la corde à linge, peut-être pas, il y a un tri à faire dans,
oui.
dans les croyances et
oui.
dans les pratiques. Le lieu pour le faire, de l'intérieur, parce qu'on peut le faire de l'extérieur en sens des religions ou sciences religieuses, le faire de l'intérieur, c'est grâce à la théologie que cette personne-là va pouvoir le faire.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, il ne s'agit pas de... c'est de l'intérieur, je veux faire un ménage critique, je veux devenir adulte par rapport à ma foi, mon inscription ecclésiale. Je prends un an, deux ans, trois ans. Je regarde qu'est-ce qui est juste. Oui. Ou bien, toujours dans la même lignée, je bénéficie de services ecclésiaux, moi qui suis croyant depuis des années. Ma situation professionnelle, familiale change. J'aurai du temps à offrir. Je me dis, je veux rendre à César ce qui est à César et à l'Église ce qui est à l'Église, à Dieu aussi. et je me dis, pour devenir un bon serviteur ou un bon bénévole ou quelqu'un d'engagé dans ma communauté, aussi bien réfléchir.
Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Bon, oui.
Parce qu'il fut un temps...
Ou ça aurait été plus naturel.
C'est qu'on pouvait faire de la théologie, puis se permettre même de faire un peu de philosophie avant, et savoir que on va pouvoir devenir un professeur, par exemple, enseigner soit dans les cégeps ici au Québec, ou encore même dans les écoles secondaires, donc pouvoir gagner sa vie avec les études qu'on a faites. Vous comprenez.
En Ontario, c'est encore possible.
C'est encore possible en Ontario.
Parce qu'on reconnaît à la fois la philosophie et la théologie, comme ce qu'ils appellent en anglais « teachables », c'est-à-dire vous avez au moins une connaissance approfondie d'une religion qui est enseignée parmi différentes religions dans les écoles secondaires, même publiques. Donc, on reconnaît ça comme quelque chose qui peut être utile pour votre enseignement. Un cours de faculté en Ontario, toujours. Par exemple, si vous faites votre bac en théologie, vous avez suffisamment de cours d'histoire pour que le gouvernement reconnaisse que vous êtes habilité à enseigner l'histoire, pourvu que vous ayez fait l'histoire de l'Église au Canada ou quelque chose comme ça pour compléter. Alors, pour l'Ontario, ça va encore.
Oui. Pour le Québec,
et là, c'est l'autre cas de figure, quelqu'un qui, à la limite, ne cherche pas à avoir un poste, parce qu'il y en a peu, note en bas de page, si vous me permettez, je crois qu'on va devoir, comme Église, envisager la possibilité et la nécessité de revoir nos structures pour avoir un rapport de transmission de la foi qui va impliquer des gens connaissants. Et ça va passer, si on veut, des hommes et des femmes mariés, etc., par une compensation financière d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est pour
c'est
Vatican
chose.
III.
Oui.
Mais il y a l'autre cas de figure, parce que je le vois en théologie, puis je le vois aussi chez un ou l'autre étudiant à l'Institut pastoral, des hommes ou des femmes qui ne se définissent pas comme croyants, mais qui voient que dans l'ère culturelle nord-américaine ou européenne, le christianisme a eu un impact social, culturel, idéologique, etc., et veulent y comprendre quelque chose.
Oui.
Il est vrai qu'ils pourraient toujours dire « on va en sciences des religions ou en faculté de sciences religieuses », mais lorsque vous allez regarder les programmes de bien des endroits qui font sciences religieuses, en tant que sciences religieuses, ce sont surtout, encore pour le moment au Québec, les religions, l'islam, le judaïsme, les religions des Premières Nations, des religions d'Afrique ou d'ailleurs, ou le bouddhisme ou autre chose. Mais dans les facultés ou les départements où les sciences religieuses sont enseignées, le christianisme ou le catholicisme est souvent le parent pauvre.
Ah oui, vous avez tout à fait raison.
Du coup, quelqu'un qui voudrait apprendre comment les chrétiens ont pensé et se sont pensés pour arriver à bâtir des cathédrales ou quadriller l'espace public comme ils l'ont fait au Québec, une faculté de théologie est au moins un endroit où on pourrait considérer qu'il y a des éléments pour avoir des réponses à ces questions.
Oui, oui. Et si vous me permettez, ce qui est un peu étrange, c'est que dans ce nouveau programme d'éthique et de culture religieuse, on doit faire la belle part au christianisme. Et c'est impératif, hein? C'est une condition. Dans le programme, on doit donner plus de temps à la compréhension de la religion chrétienne.
Puisque c'est lié
à notre histoire,
intimement à l'histoire
du Québec.
Viendra un temps, peut-être dans 60 ans ou peut-être même avant, où la proportion de catholique étant ce qu'elle sera,
oui.
Où il faudra revoir cette part-là à la baisse, mais ça n'ôtera jamais l'importance que ça a eue jusque dans et en vue de et pour la Révolution tranquille.
Oui.
Je repense encore au père Georges-Henri Lévesque et à ses travaux dans les années 50.
Dans un monde où la laïcité s'affirme de plus en plus, et la Charte des valeurs québécoises en est un très bon exemple, la théologie a-t-elle encore sa place dans ce monde?
Je crois que oui. D'une part, pour rendre un service interne aux chrétiens, aux chrétiennes, aux églises, parce que vivant de l'autre côté de la frontière, vivant en Ontario, je vois les journaux, j'écoute les infos. Ce qui me fascine, puisque je suis aussi professeur de rhétorique, c'est à quel point la rhétorique est forte, les arguments sont faibles, d'un côté comme de l'autre.
Oui.
Parler fort, répéter le même argument faible ne rend pas l'argument plus fort.
En effet.
ni pour ni contre, ça n'a rien à voir. Et je crois que une connaissance de la théologie, une connaissance de l'histoire de l'Église rappellerait et permettrait aux chrétiens de voir que l'Église a vécu sous différents types de régimes, persécutés, structurante, contrôlante,
glorieuse,
insignifiante selon les époques. Nous avons, comme Église, été dans plusieurs régimes différents. Certains avaient des valeurs affichées tout à fait catholiques, au moins sur papier. Les gouvernants n'étaient pas moins machiavéliens que les autres. D'autres avaient des chartres ou leur équivalent fonctionnel, tout à fait contre, l'Église a vécu quand même. Il faudrait, je crois, que la théologie est l'occasion de faire la différence entre du religieux, du sacré, du culturellement important, du traditionnel, et ce qui est croire au Christ Jésus, Fils de Dieu, mort ressuscité, etc., etc., et d'arriver à le confesser. Un signe, deux signes, trois signes ostentatoires ou pas, c'est secondaire du point de vue de la confession de la foi et de la foi vécue. Alors, la théologie permet de faire toutes ces nuances-là, ces distinctions-là, et permet aussi peut-être d'éviter de dire deux, trois âneries avec trop de conviction par moment.
Oui, et donc enrichit cette société laïque. Vous êtes dominicain, Maxime Allard. Alors, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'Ordre des Dominicains se préparait à célébrer en 2016 800 ans de prédication dans l'Église. D'ailleurs, le maître général de votre ordre, Bruno Cadoré, aurait dit à une journaliste de La Croix l'importance pour les Dominicains de collaborer avec les laïcs, et pour ce faire, il dit qu'il est impératif de reconfigurer les centres de recherche théologique. Alors, pourquoi d'après vous?
Les centres de recherche théologique sont importants, on le dit depuis tantôt, tant pastoral qu'en théologie, nous à Ottawa ou ailleurs, mais il n'en demeure pas moins que dans l'ordre et dans bien des universités, malgré les déplacements de programme, malgré la transformation du corps professoral au fil des dernières années, je dirais qu'il y a encore toute une série de fantômes, disons, de chrétienté, qui structurent les programmes, pour le meilleur et pour le pire. Et je me dis, il y a encore aussi des hommes et des femmes qui avaient connu l'Ancien Régime, qui ont fait la transition, et qui ont plus la force, la capacité de faire une autre transformation, mais qui vivent encore. Donc, s'il y a des fantômes, il y a aussi des dinosaures. Mais il y a aussi plein de jeunes qui, de différentes manières, croient tout savoir. Je pense à certains jeunes convertis, ça existe.
C'est terrible?
Non, ça est.
Oh.
Ça existe. Il y en a toujours eu à différents moments. Et je me dis, il est temps, Je suis d'accord avec Bruno Cadoré là-dessus. Nous en avons déjà discuté lorsqu'il est passé à Ottawa. Il faut repenser les centres institutionnels de théologie parce que peut-être que pour rendre le service ecclésial, qui est important de rendre, le cadre universitaire tel que l'université l'est devenu n'est peut-être pas le seul lieu ou le premier lieu ou le lieu adéquat pour faire la réflexion sur la vie, la pratique de l'Église. Et du coup, l'ordre de ce point de vue-là, c'est intéressant puisque nous avons des centres institutionnels de théologie, de philosophie et de pastorale sur à peu près tous les continents désormais. Certains centres très, très anciens. Certains sont centenaires, d'autres sont beaucoup plus récents. Certains viennent du premier monde, d'autres des pays émergents. Nous avons, de ce point de vue-là, une richesse d'expérience qui sera bonne d'exploiter, de discuter entre nous pour voir où nous nous retrouverons comme centre dominicain dans 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Merci, Maxime Allard, de vous nous donner le goût de la réflexion, du sens critique, d'une ouverture, je dirais, à l'autre, sans le craindre. Je vous souhaite une belle année au Collège universitaire dominicain, tant à Ottawa qu'à Montréal. Merci.
Merci bien, madame.
Avant de vous quitter, je vous informe qu'il y aura un colloque organisé conjointement avec l'Institut pastoral des Dominicains et la chaire de recherche Sœur Notre-Dame de la Croix sur la famille chrétienne de l'Université Saint-Paul. Le titre précis de ce colloque, Une identité à construire, une identité à vivre, un défi pour la famille. Ça se passera à l'Université Saint-Paul à Ottawa les 3, 4 et 5 octobre prochains. Le congrès sera bilingue, il y aura une traduction simultanée pour toutes les conférences. Hélène Champagne de l'Institut pastoral me disait que ce colloque offrait une approche religieuse, théologique, pastorale, mais aussi une approche philosophique, psychologique et sociale. Il s'adresse autant aux praticiens qu'aux chercheurs. Si vous êtes intéressé à vous inscrire à ce colloque, vous pouvez joindre Julie Nantel-Powell au 613-236-1393. Je répète, 613-236-1393, poste 2251, ou à l'adresse Internet suivante, jpowell@ustpaul.ca. Je répète, jpowell@ustpaul.ca. Je veux remercier mon invité, Maxime Allard, dominicain. Merci à Justine Chevary-Cossette à la technique. Je vous rappelle que cette émission de Foi et Turbulence est produite par le Centre culturel chrétien de Montréal, le Centre étudiant Benoît Lacroix et le Collège universitaire dominicain, avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Notre prochain rendez-vous sera le 23 octobre prochain. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous espère. Au revoir.